Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Radio Céré, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. Santé pour tous marque un arrêt aujourd'hui sur le cancer du sein. Pour en parler, nous recevrons le docteur Sinou Manuela, gynécologue obstétricienne en service à l'hôpital Baptiste de Mesquine. Grâce à son expertise, nous allons décrypter cette pathologie silencieuse et indolore dont les manifestations apparaissent souvent à un stade avancé. La mise en onde de cette émission est assurée par Maxino à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Steve Phoebe, au micro de présentation. Petite respiration et on se retrouve juste derrière pour démarrer cette édition de Santé pour tous. Selon le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du sein représente dorénavant 11,7% de toutes les tumeurs déclarées chez les humains, ce qui fait désormais de lui le cancer le plus fréquent au monde. Cette pathologie est en effet le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde, autant avant qu'après la ménopause. Il est établi qu'une femme sur 9 sera atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie, et une femme sur 27 en mourra. Le plus souvent, le cancer du sein survient après 50 ans et le taux de survie 5 ans après le diagnostic varie de 80 à 90% selon l'âge et le type de cancer. En Afrique subsaharienne, le cancer du sein fait partie des deux premières causes de décès par cancer chez les femmes dans la plupart des pays et notamment au Cameroun. C'est pour cette raison qu'il faut accentuer la sensibilisation sur cette maladie qui, à l'instar des autres cancers, fait l'objet de désinformations. Il existe en effet chez nous un mythe autour du cancer qui continue d'être perçu comme une maladie pour laquelle il n'existe pas de guérison. Pour beaucoup de personnes, en effet, la seule issue au cancer, c'est la mort. Or, en réalité, cela n'est pas toujours le cas. Le cancer est certes une maladie mortelle, mais les chances de guérison sont réelles. S'agissant spécifiquement du cancer du sein, les experts sont unanimes sur la question. Un cancer du sein détecté tôt peut être définitivement soigné. Il importe donc d'outiller les hommes et les femmes pour une surveillance constante et efficace des signes suspects de cette maladie. C'est à cette tâche que nous allons nous atteler au cours de cette émission avec le précieux concours de notre invité. Mais avant de l'accueillir, je vous propose d'écouter certains habitants de Maroua auprès de qui nous avons recueilli les connaissances sur le cancer du sein.
Le cancer du sein, c'est lorsque la femme a les problèmes au niveau du sein. Oui, parfois ça fait les boutons au niveau du sein là. Ça gonfle, ça rougit même. Et par rapport à ça, il y a les téléphones par exemple que les femmes mettent dans les soutiens. Oui, ça cause le cancer. Et même l'argent aussi, les pièces. Oui, ça peut causer aussi le cancer. Et ça se manifeste là, ça gonfle le sein des femmes. Oui, il y a les femmes qui n'ont jamais fait ça, mais il y a le cancer du sein. Ça peut être... le feu. Le feu, par exemple, si la main n'attache pas, ne met pas les soutiens, ne couvre pas leur sein, par exemple, elles sont à côté du feu. Oui, là, elles attachent seulement les pains là. Ça peut causer les cancers. Oui, les marmites qui chauffent, par exemple, si ça colle un peu le sein là, ça peut. Oui, même le soleil aussi, les rayons ultraviolets. Au champ, par exemple, si elles ne portent pas les vêtements, le soleil aussi touche aussi, c'est un peu ça. Oui. Non, la majorité, c'est pour les femmes. Parce que les hommes, ils mettent trop les habits, les vêtements sur eux. Ce sont les femmes qui laissent leurs organismes dehors. Oui, pour éviter, il faut porter les vêtements, décemment, peut-être porter les soutiens, ne pas laisser tellement les organismes dehors et parfois ne pas s'approcher du feu, par exemple. Oui.
Bon, le cancer du sein, c'est une pathologie qui touche particulièrement les femmes. Bon, je peux dire... La nutrition, ce que nous consommons, c'est ça qui cause souvent le cancer du sein. Bon, quand une femme a le cancer du sein, elle ressent parfois des douleurs au niveau des seins. Parfois, elle constate qu'il y a un bouton dans son sein ou peut-être des boules. Et pour cela, il faut un diagnostic chez un gynécologue pour se faire consulter. Oui, on peut guérir de cette maladie en faisant recours à la médecine moderne et des méthodes thérapeutiques. bien sûr, on peut éviter le cancer du sein. Bon, pour certaines femmes, pour éviter le cancer du sein, ne pas choisir l'aliment approprié et éviter aussi de fumer le tabac.
Bon, pour moi, le cancer du sein, c'est une inflammation au niveau du sein qui est parfois visible chez les femmes. On observe des gonflements au niveau du sein. Il y a des boutons qui réapparaissent en quelque sorte. Cancer du sein, non. Je ne crois pas un homme d'être atteint du cancer du sein. Je ne crois pas. Bon, le cancer du sein peut être causé par la non-palpation de sein. La non-palpation de sein qui fait naître des fibres à l'intérieur du sein. Mais puisque quand on palpe le sein, on a tendance à faire dégonfler un ballon. Et je pense que si les femmes, les jeunes filles de nos jours se laissent palper le sein, je pense qu'elles ne seront pas atteintes de cancer du sein. Oui. Bon, d'abord, elles-mêmes, elles peuvent le faire. Elles peuvent prendre des serviettes et avec de l'eau chaude. Elles peuvent placer au niveau du sein, palper, juste. Bon, parfois les symptômes sont visibles. Parfois les symptômes sont visibles. On a tendance à voir les boutons au niveau de sein. Et il y a aussi la taille même du sein. Donc l'un dépasse l'autre. D'ici l'un est atteint du cancer du sein parce qu'il y a le volume qui augmente. Bon, c'est une maladie qui est parfois curable. On assiste à des opérations où on coupe la partie infectée. Et donc, si la personne est chanceuse, elle peut survivre pendant longtemps. Dans le cas contraire, elle peut succomber. Et donc, c'est des cas rares de voir la femme guérir le cancer du sein. C'est des cas rares.
Le cancer du sein, pour moi, c'est une maladie qui attaque les seins et souvent qu'on n'arrive pas à soigner. Bon, moi, je dirais que ça concerne uniquement les femmes. C'est souvent causé par les monnaies que les femmes déposent au niveau des seins. Et souvent aussi, on peut dire, quand une femme accouche et elle ne veut pas allaiter l'enfant, oui, cela peut aussi causer le cancer du sein. Elle ressent les douleurs au niveau des seins et souvent il y a l'apparition des boutons ou bien des boules. Oui, oui, on peut éviter ces cancers. Juste les pratiques d'hygiène un peu simples des femmes, oui, cela peut aussi éviter le cancer du sein. Allaiter les enfants, c'est aussi très bien. Et palper souvent aussi les seins, très bien aussi. Bon, palper quand même, je ne connais pas. Je ne sais pas comment on palpe le sein.
Je dirais que le cancer du sein est une maladie qui atteint généralement les femmes. Voilà, mais aussi les hommes. Mais plus, les femmes sont beaucoup plus, comment dirais-je, voilà, victimes de cela. Le cancer du sein est généralement causé par la malnutrition, je me dis, la pollution aussi, et le manque de sport aussi, ce que je me dis. Voilà, les symptômes de cette maladie, en fait, les symptômes ne sont pas visibles au début. Souvent, ça arrive à un stade où la maladie est assez développée. Ça ne fait pas régulièrement mal, en fait. Voilà, il y a seulement une boule. Que bon, si la femme ne palpe pas son sein, généralement, elle ne va pas s'en rendre compte. Et la maladie, en tout temps, est en train de se développer. Après cela, je dirais que ça se manifeste à base d'un gonflement du sein. Et le sein gonfle. Il y a aussi l'écoulement. Oui, l'écoulement mammel. Je pense que c'est un liquide. Un liquide, je ne sais pas comment il est, parce que je n'ai jamais eu à voir ça, mais je sais que c'est un liquide qui sort du sein quand même. Aussi, le sein change aussi de couleur. Ça devient comme si ça se dépigmentait. Donc, ça change de couleur et de forme. Voilà, pour palper le sein, on utilise notamment les mains. On pose la main au niveau du sein, on essaye de voir, on touche. Donc c'est ce geste-là qu'on appelle palper, la palpation, voilà. Régulièrement, je dirais, peut-être si possible, à chaque bain, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut apparaître, mais une fois par mois, je dirais que c'est conseillé. L'avantage, c'est beaucoup plus de détecter rapidement cette maladie. Si l'on détecte tôt la maladie ou bien si l'on détecte tôt la présence d'une boule et qu'on part faire un examen et qu'on nous révèle que non, nous souffrons d'un cancer, je dirais que nous avons beaucoup plus la chance d'arrêter, de freiner cette maladie en fait. Elle ne sera pas développée.
Fidèles auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire, dans lequel nous parlons aujourd'hui du cancer du sein. Après ce vox pop que nous venons d'écouter, nous allons approfondir le sujet avec notre invité. Docteur Sinou Manuela, vous êtes gynécologue obstétricienne. Bienvenue sur notre antenne.
Merci à vous, merci pour cette interview.
Alors aujourd'hui, nous parlons spécifiquement du cancer du sein. Déjà, c'est quoi le cancer du sein et quels sont les différents types de cancer du sein que vous rencontrez fréquemment dans vos consultations?
Le cancer du sein, comme tous les cancers déjà, c'est d'abord une prolifération maligne des cellules du sein. Prolifération maligne, ça veut dire que les cellules deviennent folles. Elles ne répondent plus aux règles de développement que le corps leur a imposées. Elles se développent de manière anarchique. Et elles ont tendance à aller coloniser d'autres organes du corps. Et lorsque cette prolifération anormale commence au niveau du sein, on parle d'un cancer du sein. Les différents types de cancers du sein, ils sont tellement nombreux, ça dépend de la classification dont on parle. Cliniquement, on va distinguer le cancer du sein en fonction du stade. On va parler d'un cancer qui est non-invasif, ou d'un cancer qui est déjà invasif, ou encore d'un cancer qui est déjà métastasé. Une autre classification est la classification histologique, c'est-à-dire en fonction du tissu même du sein qui est atteint. Là, on parle du cancer qui a commencé dans les lobules du sein. On appelle ça un carcinome lobulaire. On parle du cancer qui a commencé dans les canaux galactophoriques. On appelle ça un carcinome canalaire. Et puis, il y a aussi d'autres variétés comme la maladie de Paget du sein. Et là, je vous passe plusieurs classifications. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de types de cancer du sein.
Docteur, d'après votre expérience, cette maladie, le cancer du sein, est-ce qu'elle est réellement présente dans notre société et quelle est la tranche d'âge la plus touchée?
Oui, je vous confirme que c'est très fréquent d'avoir des femmes porteuses du cancer du sein dans ma consultation à Marois. Je peux même dire que il ne peut pas se passer une semaine sans que je n'ai un nouveau cas de cancer du sein. Ça survient plus souvent chez les femmes de plus de 50 ans. Au-delà de 50 ans, on rencontre plus fréquemment le cancer du sein. Mais j'ai également des patientes de 25, 30, 35 ans qui sont en train de se battre avec ce cancer.
Docteur, est-ce que c'est vrai que cette maladie touche aussi les hommes?
Le cancer du sein touche les hommes. 1% des cas de cancer du sein surviennent chez des sujets de sexe masculin. Personnellement, j'ai déjà opéré plusieurs hommes de ce cancer.
Quelles sont les causes ou facteurs de risque du cancer du sein?
Le cancer du sein n'a pas de cause à proprement parler. Il n'y a pas un agent pathogène qui va aller provoquer le développement anormal de ces cellules. Le cancer du sein, on retrouve des facteurs de risque au cancer du sein. Des facteurs de risque très variés, l'âge supérieur à 50 ans est un facteur de risque, l'hyperœstrogénie c'est un facteur endogène. Une femme a une hyperœstrogénie lorsque sa période d'activité génitale est très prolongée, par exemple lorsqu'elle a une puberté précoce et une ménopause tardive. Ça veut dire qu'elle a de longues années où elle produit des hormones qui ont le temps de créer le climat d'hyperœstrogénie et de faire développer le cancer du sein. Il y a la nulliparité, donc le fait de ne pas avoir d'enfant, le fait de ne pas allaiter. Tout ça sont des facteurs qui créent une hyperœstrogénie. L'obésité, l'utilisation prolongée d'hormones augmente l'hyperœstrogénie et ce sont là des facteurs de risque du cancer du sein. Mais il y en a d'autres. Il y a des mutations génétiques, il y a des familles qui ont une mutation qui fait que les femmes développent beaucoup de cancers du sein, et même les hommes. Ce sont là les principaux facteurs de risque. Ouais.
Est-ce que cette maladie a un lien avec le volume du sein? Parce qu'il y a habituellement des personnes qui disent que des femmes qui ont une forte poitrine sont plus exposées à cette maladie. Est-ce vrai?
Non, pas du tout. Non, il n'y a aucun rapport avec le volume du sein. La belle preuve, c'est que les hommes qui n'ont même pas de sein développent le cancer. Et que ça leur fait apparaître à ce moment-là un sein. Non, peut-être chez la femme qui a un sein volumineux, le cancer se cache plus longtemps. Et donc quand il est découvert, il est à un stade un peu plus sévère.
Parlons justement de cette découverte du cancer. Est-ce qu'il existe des signes précurseurs à partir desquels une femme devrait songer à aller en consultation?
Le grand mal avec ce cancer, cette maladie en particulier, c'est qu'elle est longtemps asymptomatique. Elle est, non, pas asymptomatique, mais indolore. Parce que souvent, c'est la douleur qui nous fait nous rendre compte qu'on a quelque chose qui ne va pas. Mais là, tout particulièrement, c'est une maladie qui ne fait pas mal. Et si quelqu'un n'est pas sensibilisé à son existence, il banalise le signe principal qui est la présence d'une boule dans le sein. La présence d'un épaississement, d'une induration qui n'existait pas, qui n'était pas là avant et qui s'est créée. C'est le plus souvent cela le signe précurseur, c'est la boule dans le sein. Mais exceptionnellement, chez certaines femmes, ça commence par une boule dans l'aisselle. Et chez d'autres, c'est un écoulement sanglant par le mamelon. C'est ça les signes principaux.
Alors, une fois que la maladie est déjà installée ou bien qu'elle est déclenchée, quels sont les symptômes de ce cancer, la docteure?
Concernant les symptômes du cancer du sein, nous avons parlé de la manifestation première qui est l'apparition d'une masse, d'une boule dans le sein ou d'un écoulement sanglant, d'une boule dans l'aisselle. Comme autre symptôme, on peut avoir la peau du sein qui change d'aspect et qui commence à avoir des petits trous. On parle de peau d'orange. On peut avoir une asymétrie soudaine des deux seins. On peut avoir la forme du sein qui change, l'apparition d'une bosse à un endroit où il n'y en avait pas. L'orientation du mamelon peut changer. Un mamelon qui était bien symétrique au second peut se mettre à pointer d'un autre côté. Une plaie peut apparaître sur le sein et une plaie qui ne cicatrise pas malgré tous les soins qui lui sont apportés. Ce sont là des signes de cancer du sein.
Alors, vous parlez de boule dans le sein. Est-ce qu'une grosseur ou une boule dans le sein est toujours synonyme de cancer?
La bonne nouvelle est que non. Plus de 50% des boules que les femmes vont percevoir dans leur sein ne seront pas le cancer. Mais elles n'ont aucun moyen de le savoir qu'après certains examens. Donc, de manière générale, on demande que toutes les femmes soient alarmées par la présence d'une boule et qu'elles se fassent consulter pour qu'on leur dise si cette boule doit la faire s'inquiéter ou pas.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des signes précurseurs, docteur. Lorsqu'une personne a ces signes précurseurs et qu'il vient vers vous à l'hôpital, comment est-ce que ce cancer est diagnostiqué?
Le diagnostic du cancer du sein se pose à l'examen histologique. Ça veut dire qu'on doit prendre un bout de la boule en question et qu'on doit la faire examiner par un médecin anatomopathologiste. C'est un médecin qui étudie l'agencement des cellules et qui peut identifier la nature de la boule qui vient d'apparaître et qui va l'étiqueter comme étant un cancer ou pas. On appelle cela faire une biopsie plus examen anatomopathologique.
En conclusion, il faut faire une petite chirurgie déjà pour pouvoir arriver à un diagnostic de cancer.
La biopsie n'est pas forcément une chirurgie. La biopsie peut être juste une ponction à l'aiguille. Une ponction d'une petite partie de la masse avec une aiguille moyenne un peu grosse. Mais quelquefois, on peut être amené à faire une petite chirurgie et enlever toute la boule pour aller l'examiner. Le plus important étant que le tissu enlevé soit examiné pour être identifié.
Alors docteur, quelles sont les différentes thérapies que vous utilisez pour soigner ce cancer? Et surtout, quels sont les avantages et inconvénients de ces thérapies-là? Quand on sait que la chimiothérapie, par exemple, qui est l'un des traitements les plus appropriés pour le cancer, a souvent des effets secondaires très, très difficiles à supporter par les patients.
L'arsenal thérapeutique dont nous disposons pour la prise en charge du cancer du sein est très varié. Tout l'arsenal n'est pas disponible dans tous les centres de santé. Particulièrement chez nous, nous avons les trois plus grandes entités, à savoir la chirurgie, la chimiothérapie Et nous faisons aussi de l'hormonothérapie. Mais il faut savoir que la radiothérapie aussi est très nécessaire pour la prise en charge du cancer du sein. Et en cinquième position, il y a ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Maintenant, la chirurgie, ça peut être juste une ablation de la masse, comme ça peut être l'ablation de tout le sein. La chirurgie peut et va souvent allier l'ablation de tous les ganglions de l'aisselle du même côté que la tumeur. Les effets secondaires ou les complications de la chirurgie sont surtout esthétiques. Dans la femme qui se sent diminuée, changée dans sa féminité, qu'elle ne retrouve plus. Donc on a surtout des problèmes du côté esthétique avec la chirurgie. La chimiothérapie qui est absolument nécessaire va empêcher les métastases et les récidives du cancer. C'est absolument nécessaire. La chirurgie en elle seule ne pourrait en aucun cas éradiquer un cancer. Cette chimiothérapie a des effets secondaires, malheureusement, parce qu'elle n'est pas ciblée. Elle n'est pas ciblée vers les cellules cancéreuses. Elle a tendance à attaquer toutes les cellules qui se multiplient rapidement dans le corps, à savoir le cancer, mais aussi les cellules sanguines et d'autres cellules osseuses. Et des cheveux aussi, par exemple. Un effet secondaire très souvent difficilement supporté par les patientes, c'est la chute des cheveux. Elles perdent leurs cheveux. Elles ont des douleurs osseuses, elles ont des sensations anormales, parfois dans les mains, dans les pieds. Mais vraiment, tout ceci est, à mon avis, supportable. Et ça en vaut quand même la peine de se faire soigner du cancer définitivement. C'est un peu long le sujet, s'il faut parler des effets secondaires de l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, quand on la prend, elle va entraîner une sorte de ménopause précoce, parce qu'elle va inhiber la production hormonale dans le corps de la femme. La radiothérapie peut avoir des complications locales. C'est une irradiation que l'on fait au niveau de la paroi thoracique et les complications sont d'ordre local sur le thorax et sur le bras qui sont concernées. Mais là encore, je maintiens que ces effets secondaires sont mesurés et la balance bénéfice-risque est en faveur de l'application de cette thérapie.
Mesdames, Messieurs, avant de poursuivre cet entretien avec notre invité, je vous invite à écouter le témoignage d'une dame qui souffre depuis 15 ans d'un cancer du sein et qui a bien voulu nous faire part de son histoire. Nous l'écoutons.
Je m'appelle Doumsara Christine, je suis née à Tokombéré en 1975, je suis ménagère. Ça fait 15 ans que j'ai un problème du sein. Ça a commencé par l'écoulement du sang. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, ça a donné les boules. On a opéré 5 fois maintenant, on a enlevé. Mais je ne sais pas si ça va encore. Mais surtout, je me dis que peut-être c'est parti comme ça, comme on a enlevé là. Sinon, c'est une maladie pas facile de gérer la maladie du cancer. Vraiment, c'est pénible.
Alors, les boules dont vous parliez, vous avez dit que vous avez eu les boules, on vous a opéré 5 fois. C'était en quelle année? C'était où? Ça s'est passé comment?
En 2017, on a opéré à l'hôpital de Djamboutou. En 2019, on a opéré à Mora, l'hôpital régional de Mora. En 2012, à l'hôpital régional de Garoua. Après, l'année passée, ici à Miskine. À Miskine, on a opéré le 7 septembre 2021.
Et en quoi consistait l'opération de Miskine?
L'opération de Miskine, c'est là où ils ont même eu à connaître, à savoir que c'était le cancer. Parce que dans tous les hôpitaux que j'opérais, on enlevait seulement la masse, on jetait. Et ça revenait toujours. C'est ici qu'ils ont, demandé d'aller faire les diagnostics. Ils ont trouvé que c'était le cancer. Bon, on m'a demandé de faire la chimiothérapie. On m'a d'abord envoyé à Ngao Bella. Je les ai dit que je n'avais pas de moyens. Par après, par la grâce de Dieu, on avait amené une femme qui pouvait faire ça ici, sur place. C'est comme ça qu'on a eu affaire. J'ai fait une chimio, on m'a demandé de couper complètement le sein. Entre-temps, il y avait déjà une masse même sous l'aisselle. C'est comme ça qu'on enlevait tout avec le sein.
Vous avez fait combien de séances de chimiothérapie?
J'ai fait 8 séances de chimiothérapie.
Et comment est-ce que vous vous sentez depuis qu'on a opéré ici, qu'on a retiré la boule? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez espoir que vous allez guérir?
Non, j'ai espoir que je vais guérir. J'ai vraiment espoir parce que sans seulement la douleur de la plaie, ce n'est plus comme avant que ma main pesait, je n'arrivais pas à soulever. Cette fois-ci là, c'est bon. Sinon, comme il y a encore la plaie, je viens de sortir du bloc là. Il y a encore la plaie là, est-ce qu'on peut savoir? Mais sinon la maladie là, on pense que c'est parti.
Durant tous les 15 ans que vous avez souffert, est-ce que cette maladie a eu une incidence sur votre vie quotidienne, sur vos travaux, champêtre à la maison, avec votre mari, votre époux? Est-ce qu'il y a eu des conséquences, des répercussions de la maladie sur votre quotidien?
Non, il y en a. Il y a des moments que je n'arrivais même pas à tourner le couscous. Mais chez nous ici, c'est le couscous. Je n'arrive pas à tourner le couscous. Il y a des moments où laver tes vêtements, tu ne peux pas. Aller au champ, tu travailles un peu. Toute la partie là est faible, tu n'arrives pas à travailler. Donc c'était... Et l'écoulement du sang là, sur le sein, ça coulait tellement que travailler 5-10 minutes, un travail dur, tu ne peux pas. Après ça là, le lendemain, vous êtes seulement couché. Il faut chercher les remèdes pour le calmant, c'est comme ça.
Au tout début de la maladie, quels sont les premiers signes qui vous ont fait vous sentir mal?
Le premier signe, c'était le sang là. Ça ne faisait pas mal, mais le sang qui coulait. Je suis allé à l'hôpital, on m'a prescrit les remèdes que ça va arrêter le coulement. Mais ça n'a jamais, ça ne s'est jamais arrêté. Jusqu'à ça a fait la masse. Quand ça a fait la masse, ma main pesait, je n'arrivais pas à travailler. J'ai dit que je suis allé à l'hôpital, on me dit que non, il faut enlever la masse. La masse est pétée. La deuxième opération, je les ai demandé d'enlever tous les seins. Parce que quelque chose que chaque 2 ans, ça pousse. Moi, je ne peux pas. Ils m'ont dit non, c'est un petit masque, ce n'est pas un problème. Quand on enlève, le saignement s'arrête. On enlève la masse, le saignement s'arrête. Après 6-7 mois, là, ça commence à gratter. Dès que ça commence à gratter, là, ça veut dire que ça a déjà commencé à faire la masse. Après 2 ans, il faut encore repartir à l'hôpital. Moi, je n'attendais pas que ça pousse jusqu'à... C'est comme ça qu'on enlève, on enlève.
Est-ce que vous avez un mot à adresser aux femmes pour leur faire prendre conscience que le cancer du sein existe, que c'est dangereux?
C'est dangereux, le cancer du sein est dangereux. Il faut toujours rester masser ton sein, toi-même, pour voir s'il y a une partie que ça fait mal vraiment, il faut aller à l'hôpital. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre à la maison. Il ne faut pas que c'est quelqu'un qui vient te dire que tu as eu telle maladie. C'est mieux de tâter toi-même là. Comme on nous montre à l'hôpital, là, quand tu rentres, tu touches, tu vois. Au fur et à mesure, s'il y a une partie qui ça fait mal, il faut vraiment chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que ce n'est pas facile.
Madame Kishine, merci beaucoup pour votre témoignage et bonne guérison à vous.
Merci. Merci beaucoup.
Merci à Madame Domsawa pour ce témoignage qui nous permet davantage de comprendre l'importance de se rendre le plus tôt possible dans une formation sanitaire lorsqu'on remarque un signe anormal sur le sein, mais aussi et surtout de privilégier le recours au service des médecins experts en la matière. Alors docteur, on vient d'écouter l'une de vos patientes à qui vous avez ablaté un sein touché par le cancer. Dans de pareils cas, existe-t-il des solutions esthétiques quand on sait que pour la femme, le sein est un atout non seulement de séduction, mais aussi pour se sentir entièrement femme?
Ok, tout à fait. Oui, il existe des solutions esthétiques, mais le préalable est que la femme soit déclarée d'abord guérie de son cancer du sein. On ne va pas se mettre à faire des chirurgies de reconstruction mammaire qui engagent des coûts supplémentaires, du moins en Afrique. Hein. En Afrique, nous n'en sommes pas encore à ce niveau où nous engageons des chirurgies, parce que ce sont des chirurgies encore de reconstruction mammaire lorsqu'une femme n'est pas encore déclarée guérie. Donc pour qu'une femme soit déclarée guérie, c'est qu'elle, il faut qu'elle ait subi tous les axes thérapeutiques qui ont été jugés nécessaires dans son cas et que 5 ans après, elle n'ait pas eu de récidive. Donc je pense que, et puis pour les femmes jeunes aussi, c'est dans ce cas qu'on va envisager. Oui, on peut reconstruire un sein. Il y a des techniques, de nombreuses techniques qui existent pour ça. Mais on peut aussi porter des soutiens rembourrés
pour mimer le volume. Ma mère qui était là avant la chirurgie.
Il y a aussi des implants, ma mère, où on pose, je ne sais pas.
Oui, quand je parle de chirurgie, c'est souvent des implants qu'on va poser sous la peau. On va d'abord mettre un dispositif gonflable sur la peau afin de distendre la peau au niveau du thorax. Puis, au cours d'une intervention, on va glisser un implant sous la peau du thorax et on va refermer, laissant, donnant une apparence d'un sein à la patiente.
Docteur, vous avez une longue expérience justement dans le suivi des patients atteints de ce cancer du sein. Est-ce que cette maladie, lorsqu'on a pris les différentes thérapies que vous avez listées plus haut, est-ce qu'on peut en guérir de manière définitive, bien sûr?
La bonne nouvelle, c'est ça, oui. On peut totalement guérir du cancer du sein. Il existe au Cameroun, ici, des patientes déclarées guéries et qui donnent leur témoignage pour peu qu'on se rapproche des centres de prise en charge d'oncologie. Des patientes qui donnent leur témoignage des années de vie qu'elles ont eues après avoir combattu ce cancer. La base, le prérequis est que le cancer soit vu tôt. À un stade où la chirurgie peut enlever complètement la tumeur et puis que les autres thérapies, chimiothérapie, radiothérapie soient appliquées.
Vous avez dit que c'est au moins après 5 ans qu'on peut déclarer qu'une femme est totalement guérie?
Oui. On se donne un temps d'observation. Avant ces 5 ans, on parle de rémission. Parce que quand même, on sait qu'on a enlevé la tumeur, on sait qu'à chaque contrôle, elle ne présente plus de signes, plus de symptômes. Mais on se donne une marge de temps avant de déclarer officiellement qu'elle est totalement guérie et qu'elle n'a plus besoin de surveillance.
Alors, docteur, vous savez qu'on est dans une région où beaucoup de personnes ont une préférence pour la médecine traditionnelle lorsqu'ils souffrent de certaines pathologies. Est-ce qu'à votre connaissance, il existe des solutions thérapeutiques traditionnel contre le cancer du sein?
Traditionnellement, il n'existe aucune prise en charge pour le cancer du sein. Nous avons reçu tellement de cas dramatiques de patientes qui ont subi des soi-disant traitements traditionnels, mais très vite on se rend compte que l'efficacité n'y est pas. Et malheureusement, c'est du temps et de l'argent perdu dans ces pathologies. Donc nous voulons sensibiliser tout le monde à venir en consultation le plus tôt possible. À savoir que ce n'est pas une fatalité, le cancer du sein est totalement, il peut être guéri, mais à condition de venir tôt à l'hôpital.
Alors tout à l'heure vous parliez du suivi post-traitement, c'est-à-dire après l'une des thérapies que vous avez proposées, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie. Vous avez parlé d'un suivi à faire. En quoi consiste ce suivi, docteur?
Le suivi après un cancer du sein consiste à venir chez son praticien, son gynéco-oncologue, tous les 6 mois au départ, ensuite ça sera chaque année pour faire un bilan d'abord clinique, un examen physique clinique et puis des examens d'imagerie à la recherche de récidive ou de réapparition du cancer.
Alors docteur, est-ce qu'on peut prévenir le cancer du sein? Si oui, comment?
La prévention du cancer du sein, oui, c'est possible. Il y a, je pense, à 3 axes de prévention. On demande aux femmes qui ont des enfants d'allaiter, de prioriser l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 mois, ça les protège contre ce cancer. On demande aux femmes de faire du sport. En fait, le but dans le sport, l'exercice physique, c'est de contrôler son poids et donc de contrôler son état hormonal. On demande aussi de faire un dépistage régulier, notamment l'autopalpation des seins, qu'on demande de faire chaque mois par toutes les femmes. Parce qu'on sait que la femme est celle qui connaît son sein mieux que quiconque. Et elle sera de ce fait la première à remarquer un changement et à tirer la sonnette d'alerte.
Parlons donc spécifiquement de l'autopalpation, docteur. Quelles sont les techniques que nos femmes doivent connaître pour faire cette pratique d'autopalpation, pour détecter le plus tôt possible la présence d'une boule ou bien d'une masse étrangère?
L'autopalpation du sein est recommandée à toutes les femmes. On recommande de le faire pour mémoire juste après les règles, chaque mois, à la fin des menstruations, parce que pendant les menstruations, les seins sont souvent douloureux. Donc juste à la fin, la femme fait son autopalpation, de préférence sous la douche.
Lorsqu'elle a le corps savonné et donc bien glissant, il est recommandé d'utiliser la main droite pour examiner le sein gauche et vice-versa. Elle va examiner le sein de manière circonférentielle ou axillaire, en tout cas en étant vraiment exhaustive d'examiner toute la glande à la recherche de boules, comme nous disions. Elle va examiner également son creux axillaire et puis elle va finir par une pression sur le mamelon à la recherche d'un écoulement anormal. Donc c'est ça les astuces.
Est-ce que la prise des pilules contraceptives augmente les risques de survenue du cancer du sein chez la femme?
Oui et non. Oui et non, parce que les recherches sur le sujet sont jusqu'à ce jour contradictoires. Donc, il existe des études bien menées qui sont arrivées à la conclusion que non, que le sur-risque n'était pas significatif. Et puis, il en existe également d'autres tout aussi bien menés qui sont parvenus à un résultat différent, disant qu'il y a une augmentation du risque du cancer du sein. Ce qui est retenu concernant la pilule contraceptive, c'est qu'il faut éviter des utilisations prolongées et il faut éviter le sur-risque, c'est-à-dire on ne va pas prescrire la pilule contraceptive à une femme obèse, par exemple, pour qu'elle ne se retrouve pas avec deux facteurs de risque surajoutés. On ne va pas prescrire la pilule œstroprogestative à une femme qui a un antécédent du cancer du sein et qui peut-être est déclarée guérie. Elle est une contre-indication formelle. C'est ça en fait, on va éviter d'ajouter cela à un autre facteur de risque. Mais de là à dire qu'on va complètement bannir la contraception, on n'en est pas encore là, parce qu'elle a encore des bénéfices très importants sur la santé de la femme.
Tout à l'heure, lorsqu'on parlait justement des signes annonciateurs et même des symptômes du cancer du sein, vous avez parlé des écoulements. Il y a des femmes qui, plusieurs années après le sevrage de leur dernier bébé, continuent toujours d'apercevoir du lait maternel qui coule de leur sein. Est-ce que c'est inquiétant, docteur?
Non, si c'est du lait maternel, si c'est clairement identifiable comme un liquide blanchâtre qui fait penser au lait maternel, non. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Ce qui est le plus inquiétant, qui fait le plus penser au cancer, ce sont des écoulements sanglants et qui vont être unilatérales dans un seul sein, parce qu'il est très exceptionnel que le cancer survienne dans deux seins à la fois. Donc c'est une pathologie qui sera unilatérale sur un seul sein et plutôt sanglant que l'acte sain.
Alors docteur, est-ce qu'il y a une alimentation et une hygiène de vie pour combattre le cancer du sein?
Je dirais oui. L'alimentation sera l'alimentation équilibrée que nous recommandons à toute personne adulte, associée à du sport régulier. L'OMS recommande 3 séances par semaine, des séances de marche de 30 minutes. Ajoutez à ça l'autopalpation régulière des seins, chaque mois, par toutes les femmes, ménopausées ou non, à la recherche de boules, d'anomalies, sur leur sein afin de consulter tôt.
Docteur, est-ce que vous avez des conseils vestimentaires, des conseils liés aux habitudes à donner aux femmes pour bien prendre soin de leur sein et se mettre justement à l'abri de la survenue d'un cancer?
Des conseils vestimentaires, je n'en ai pas parce que ce sont des idées reçues. Ce n'est pas le soutien-gorge qui va entraîner le cancer du sein ou favoriser d'une quelconque façon. Que ce soit les brassières avec un métal à l'intérieur, non. Certaines personnes m'ont demandé si le fait de mettre de l'argent dans le soutien-gorge, vraiment aucune étude n'oriente vers cette étiologie. Non, je ne vois pas d'habitude vestimentaire qui pourrait prévenir le cancer du sein. Comme habitude de vie, c'est vraiment que chaque femme, toutes les femmes, adoptent l'autopalpation des seins. C'est ça qui va nous permettre d'arriver à consulter lorsque nous sommes à des stades très très précoces et de pouvoir guérir de cette maladie.
Docteur Sino Manuela, merci de vous être prêté une fois de plus à notre micro pour sensibiliser les femmes sur le cancer du sein.
Merci à vous pour l'honneur que vous nous accordez.
Amis auditeurs, c'est la fin de cette autre édition de Santé pour tous qui s'est arrêtée aujourd'hui sur le cancer du sein. Grâce à l'expertise du docteur Sinou Manuela, gynécologue obstétricienne en service à l'hôpital Baptiste de Mesquine, que nous remercions une fois de plus de s'être prêté à cette émission de sensibilisation. Comme point essentiel à retenir de cette émission qui s'achève, le cancer du sein est certes une maladie foudroyante, mais contrairement aux idées reçues, on peut en guérir, surtout si ce cancer est détecté assez tôt et pris en charge rapidement. Pour cela, il vous est préconisé, chères dames, de palper vos seins chaque mois, juste après vos règles, pour détecter le plus tôt la présence d'une boule qui pourrait suspecter un cancer. Si vous sentez la présence d'une boule dans votre sein, aussi petite soit-elle, ou encore si vous constatez un écoulement sanglant ou anormal sur l'un de vos seins, ne perdez plus de temps, rendez-vous immédiatement dans une formation sanitaire pour un examen approfondi et une prise en charge rapide. En le faisant, vous augmentez considérablement vos chances de guérison. Pour réduire les risques de cancer du sein, il est aussi recommandé de privilégier et prolonger l'allaitement maternel, faire régulièrement de l'exercice physique, éviter le surpoids, éviter l'abus d'alcool, éviter de s'exposer à la fumée du tabac et éviter de suivre un traitement hormonal prolongé. Fidèles auditeurs, si vous souhaitez apporter une contribution, poser une question ou même réagir sur le thème de ce jour, vous pouvez le faire en envoyant soit un message, soit un voice par WhatsApp au 695 14 63 62. La mise en œuvre de cette émission a été possible grâce au concours de Marc Chignon à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Steve Febi, au micro de présentation. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition de Santé pour tous. D'ici là, gardez à l'esprit que prévenir vaut mieux que guérir. À très bientôt.